On va passer la parole à Ludivine Amoros et Juliette Leroy, qui sont des étudiantes de l'Université de Lille, qui n'étaient donc pas nées en 1983, et qui, dans leur cadre de droit comparé avec M. Pradel, c'est bien ça,
c'est ça,
se sont livrées à un travail de benchmarking, comme on dit en bon français, sur les alternatives aux tiges dans d'autres pays. Donc, vous nous faites un tour du monde des tiges en 7 minutes, c'est ça?
C'est ça, 6 minutes. Allez. 30. Bien, alors bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aimerais juste, pour commencer, rappeler qu'en effectuant cette étude, nous avons eu l'occasion de rentrer en contact avec différents interlocuteurs, et notamment Léa Grujon, que l'on remercie particulièrement aujourd'hui, parce que c'est tout de même une chance pour nous, étudiantes, de pouvoir venir partager notre travail avec vous aujourd'hui. Donc finalement, notre objectif en 6 minutes 30 est de s'ouvrir un petit peu, d'essayer de vous donner une vision internationale de ce que peut être cette peine de tige. À titre préliminaire, il conviendra juste de rappeler que l'Europe est le berceau de cette mesure, puisqu'elle est née en Angleterre en 1972 et qu'elle est donc rentrée dans le droit français, on en a parlé ce matin, en 1983. Ah, ça va trop vite. Voilà. Donc moi, je vais commencer par une partie qui reprend une approche globale de la peine de tige dans le monde. Pour information, globalement, elle est appliquée aux majeurs et aux mineurs dans tous les pays que l'on a pu étudier. À l'échelle internationale, trois points nous ont paru importants et intéressants à développer devant vous. Le premier serait la durée moyenne qu'a cette peine de tige. La durée moyenne aussi entre 20 et 400 heures. Il y a un petit schéma que vous pouvez regarder. Ce qui est intéressant, c'est le cas de l'Espagne, puisqu'elle a un fonctionnement qui est tout à fait particulier. En effet, le tige se compte en jours de travail et non en heures. Donc finalement, la peine de tige remplace concrètement une peine d'emprisonnement. Et donc une journée de tige remplace une journée d'emprisonnement. À savoir que le maximum est de 180 jours. Donc on a fait un petit calcul, ça revient quand même à 1440 heures, ce qui est assez important. Le deuxième point intéressant serait la nature des infractions qui aboutissent à cette peine de tige. Il s'agit principalement de petits délits qui sont punissables d'une peine privative de liberté. Quelque chose de tout à fait intéressant qu'on a pointé effectivement aujourd'hui, c'est le fait que la Belgique, par exemple, exclut les infractions qui sont commises en relation avec la drogue et l'alcool. Alors que la Finlande a un point de vue tout à fait différent, puisqu'elle utilise énormément le tige pour les infractions qui ont donc une relation avec l'alcool et la drogue, en estimant que c'est tout à fait positif dans une idée de réhabilitation du condamné. Le dernier point qui semble intéressant serait finalement les différentes natures des travaux proposés. De façon générale, on en a parlé précédemment, l'idée est que la sanction prononcée doit avoir un lien avec le comportement réprimé. Et pour cela, il faut que la peine soit individualisée, personnalisée. On en parle beaucoup, de la personnalisation de la peine, de l'individualisation de la peine. Par exemple, en France, si on est condamné, par exemple, pour un délit routier, il est tout à fait probable d'effectuer un stage dans une structure d'accueil des accidentés de la route. Donc là, on est vraiment dans une personnalisation, une individualisation de la peine qui est très concrètement liée avec le fait commis. Deux dernières choses assez intéressantes à pointer du doigt par rapport à la nature du travail qui est proposé et des choses qu'on ne connaît pas du tout en France. Le Pays-Bas, la Norvège et l'Espagne proposent, au-delà donc, d'un stage ou de ce qu'on peut connaître comme peine de tige en France, la possibilité d'une formation professionnelle, donc une formation diplômante. Sinon, les États-Unis sont aussi assez novateurs, ou en tout cas expriment quelque chose que l'on ne connaît pas du tout, puisque la victime peut, elle, participer au choix des travaux qui seront imposés aux condamnés, c'est-à-dire qu'elle participe réellement à la détermination de la peine. Le Danemark et la Norvège, eux, offrent la possibilité aux condamnés de contester le travail donné. Donc là, on pousse encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va demander aux condamnés si le travail lui convient. Voilà. Ce sera tout pour moi. Je laisse la parole à Ludivine.
Merci. Alors moi, je vais vous faire une partie sur les différentes visions du tige dans le monde, donc un peu plus un focus sur certains pays. Et voilà. Donc, on va commencer avec l'Europe de l'Est. Tout à l'heure, monsieur, je me permets de rebondir, vous parliez du travail forcé. Il faut savoir que donc, dans les pays de l'Europe de l'Ouest, donc, comme la France, l'Angleterre, etc., on demande à l'intéressé, on demande que le consentement de l'intéressé soit requis, alors que pour certains pays de l'Europe de l'Est, ces pays peuvent exiger de la personne qu'il effectue cette peine de PTIGE, donc sans son consentement. Et donc, c'est vrai qu'une partie de notre doctrine occidentale est contraire à cette idée parce que c'est ce que prévaut donc, les traités internationaux qui prohibent le travail forcé. Et certains même évoquent l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la torture et les traitements inhumains et dégradants. Plus spécifiquement, maintenant, en Russie, il existe une forme de TIGE qui s'intitule le « Travaux de contrainte » qui ont été créés en 2011. Et c'est l'idée que l'intéressé doit aller dans un milieu, dans un lieu précis, mais qui est vraiment hors de la société, qui est clos. Et donc là, c'est vrai qu'on se rend compte que la volonté réintégrative, excusez-moi, vous l'avez tous compris, pas du tout propice. Une vision maintenant africaine. Alors, au Rwanda, il existe des juridictions populaires qui s'appellent les gachacha. Donc, elles ont été créées afin de condamner les personnes qui ont été impliquées dans le génocide de 1994. Et donc, elles peuvent prononcer une peine de TIGE pour les condamnés. Mais il faut d'abord qu'ils aient effectué la moitié de leur peine en détention. Et donc, l'objectif final, c'est vraiment de réinsérer progressivement ces individus au sein de la société. Et donc, à travers cette peine, le pays recherche une réconciliation nationale. Le Zimbabwe, quant à lui, prône l'inefficacité de l'emprisonnement des courtes peines. Donc, je pense qu'encore une fois, on est tous d'accord ici et c'est ce qui a été dit ce matin. Et accompagné du Burkina Faso, de l'île Maurice et de l'Ouganda, ils souhaitent réformer leur justice pénale en rendant effective cette peine de TIGE. Et on va finir sur une vision nord-américaine avec le Québec, où il existe les travaux compensatoires. Donc, ce sont des heures de travail non rémunérées qu'un citoyen qui est dans l'incapacité de s'acquitter d'une amende suite à une infraction qu'il a commise, accepte volontairement d'exécuter afin d'éviter une peine d'emprisonnement. Donc cette mesure s'adresse plus particulièrement aux personnes qui sont démunies financièrement. Et enfin, aux États-Unis, ce sont davantage les délinquants juvéniles ou bien les primo-délinquants qui sont condamnés à une peine de TIGE. Donc voilà, on en a terminé. Nous vous remercions. On espère que ce petit voyage du TIGE vous aura plu.